Radio Orient présente Pluriel. Pluriel, animé par Loïc Barrière.
L'invité de Pluriel est Ella Kribi-Romdan, porte-parole de Génération Conseil Régional d'Île-de-France et députée suppléante de l'Essonne. Bonsoir.
Bonsoir Loïc.
Alors Ella Kribi-Romdan, j'aimerais d'abord qu'on parle des résultats du second tour des législatives au niveau national. Comment expliquez-vous qu'Emmanuel Macron n'ait pas réussi à obtenir une majorité absolue ?
Bah écoutez, je crois que c'est très clairement les électeurs qui ont sanctionné sa politique de ces dernières années, à la fois sur les questions sociales et le pouvoir d'achat. Il suffit de voir la difficulté de nos concitoyennes et de nos concitoyens à payer les factures, à subvenir parfois à leurs besoins, les reculs aussi sur les questions climatiques et écologiques, les reculs démocratiques, la jeunesse hein, qui est mise à mal. On voit en cette fin d'année les dégâts de Parcoursup qui a été mis en place par ce gouvernement Macron et qui laisse sur le carreau de trop nombreux jeunes sans inscription à l'université alors même qu'ils ont leur bac. Bref, c'est très clairement, je crois, la politique du gouvernement qui est sanctionnée à travers ce résultat.
Alors Ella Kribi-Romdan, j'aimerais qu'on évoque l'élection d'abord de Jérôme Guedj et de vous-même comme suppléante dans l'Essonne. Comment avez-vous vécu cette campagne et que vous inspire cette victoire face à la ministre Amélie de Montchalin qui doit donc quitter le gouvernement ?
Absolument. Alors nous, on était candidat, j'étais la suppléante de Jérôme Guedj qui a été élu député dimanche soir dans la 6e circonscription de l'Essonne, c'est-à-dire sur les villes de Massy, Palaiseau, Chilly-Mazarin, Igny, Morangis et Gissou, donc sur ces six communes. On avait une députée sortante qui était ministre du gouvernement Macron, qui a été la ministre de la fonction publique et donc qui a été celle qui a laissé faire le gel du point d'indice des fonctionnaires, celle qui a mis à mal les services publics, celle qui a laissé faire les fermetures de lits dans les hôpitaux. Et nous, on l'a vu ici avec les fermetures de lits à l'hôpital de Longjumeau. Ça a des répercussions très directes sur la possibilité d'accès à la santé des populations à l'échelle locale. Toutes ces décisions aussi qui concernent l'éducation nationale et le manque de postes dans l'éducation nationale, service public essentiel. On voit bien, et je l'ai vécu en première ligne en tant qu'élue et en tant que maman, quand on a ses enfants scolarisés dans l'enseignement public et qu'on constate que les enseignants ne sont pas remplacés parfois pendant des semaines, parfois pendant des mois, parce qu'on manque de postes à l'éducation nationale, et ben c'est le résultat de la politique du gouvernement Macron. Et Madame de Montchalin était en première ligne en tant que ministre de la fonction publique. Donc cette campagne, on l'a menée à la fois sur les questions très concrètes, celles que je viens d'évoquer, celles du quotidien, et puis sur des questions éminemment politiques à l'échelle nationale, sur la question du climat. Rappelons que c'était une députée qui a voté contre l'interdiction du glyphosate qui est dangereux pour la santé, alors même qu'elle venait d'être nommée au moment des élections, depuis l'élection présidentielle, ministre de la Transition écologique. C'était d'ailleurs un choix assez étrange, je dois le dire. Donc on était à la fois dans un combat local pour faire en sorte que notre circonscription soit ancrée, enfin qu'elle constitue un pôle de résistance à la politique de Monsieur Macron et de son gouvernement, mais ça a évidemment une répercussion nationale puisque nous avions face à nous une candidate qui était ministre du gouvernement et donc qui, dès dimanche soir, a dû prendre acte de sa défaite et donc se porter démissionnaire du gouvernement.
Alors si Jérôme Guedj a été élu, la NUPES n'a pas obtenu la majorité comme l'espérait Jean-Luc Mélenchon, qui souhaitait devenir Premier ministre. Même s'il y a plus d'élus de gauche par rapport à 2017, ça n'est pas un pari réussi pour Jean-Luc Mélenchon. Les députés de gauche auront néanmoins plus de pouvoir que lors de la précédente mandature.
Oui, en effet. Alors, ce qu'il faut bien que les gens comprennent, et c'est là qu'on va devoir faire œuvre d'une grande pédagogie, y compris à l'échelle de nos circonscriptions, c'est que nous avons ici, nous, dans la 6e circonscription, comme dans plus de 140 circonscriptions en France, gagné avec un député NUPES, mais nous n'avons pas la majorité à l'Assemblée nationale, ce qui fait que malheureusement, à l'heure où je vous parle en tout cas, on ne pourra pas mettre en place les mesures que nous avions souhaité imaginer avec un gouvernement de gauche écologiste. Je parle notamment du SMIC à 1500 euros ou encore de la suppression de Parcoursup, de la retraite à 60 ans. Bon, ce sont des éléments que nous avions dans notre programme et qui, malheureusement, faute de majorité à l'Assemblée nationale, nous ne pourrons pas mettre en place. En revanche, et vous avez raison de le rappeler, nous avons un grand nombre de députés et nous avons réussi à faire en sorte également que M. Macron n'ait pas une majorité absolue à l'Assemblée nationale, ce qui signifie qu'il va devoir composer et que notamment sur des questions comme la mise en place de la retraite à 65 ans, qui doit être l'une de ses premières mesures qu'il souhaite ardemment, eh bien, on va pouvoir bloquer un certain nombre de ses décisions de recul. Social. C'est la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. On va réussir à avoir une coalition suffisamment forte pour être indispensable à l'Assemblée nationale. Et je vous disais tout à l'heure, un vrai pôle de résistance, une vraie force à la fois constructive et vigilante sur les décisions prises à l'échelon national par le gouvernement Macron.
Alors vous qui faites partie du pôle écologiste en tant que membre de Génération, il va y avoir de nouveaux visages à l'Assemblée nationale, des figures nationales comme Sandrine Rousseau ou Julien Bayou, mais aussi Sandra Regol, Benjamin Lucas, Sabrina Sebei. Il y a beaucoup de députés écologistes. Qu'est-ce que ça peut changer sur le plan national, même quand on est dans l'opposition ?
Écoutez, le fait qu'il y ait des députés comme Sophie Taillé-Polian, Sabrina Sebaï et Julien Bayou, etc., comme celles et ceux que vous avez mentionnés, ben, c'est aussi mettre au devant de la scène, au devant du débat public, la question écologique comme étant prioritaire. La question écologique intimement liée à celle du pouvoir d'achat et à la question de la justice sociale. Je pense notamment aux questions de rénovation énergétique des bâtiments. Je pense dans des grandes agglomérations à la lutte contre la bétonisation à outrance de nos territoires, sans réflexion sur l'impact écologique que cela peut avoir. Bref, un tas de questions qu'on va pouvoir mettre au devant de la scène à l'Assemblée nationale en imposant un rapport de force bien plus favorable qu'auparavant et en mettant d'une certaine manière le gouvernement face à ses responsabilités là où jusqu'ici nos porte-voix étaient trop peu nombreux à l'Assemblée pour imposer ces sujets dans le débat.
Vous avez bon espoir d'être écouté par Emmanuel Macron, notamment sur ces questions d'écologie.
Écoutez, on aura un temps de parole et c'est aussi là que se joue la question de l'existence de groupes politiques à l'Assemblée nationale. C'est aussi pour avoir du temps de parole, pour imposer des sujets dans le débat public, interpeller, être vigilant sur les lois qui sont votées et intransigeant sur la question écologique et sur le défi climatique, parce que c'est le grand défi de la décennie et que c'est maintenant qu'il faut pouvoir apporter des solutions et pas dans 10 ans.
Et là, Kribi Romdan, on est dans une situation totalement inédite. Comment Emmanuel Macron et Elisabeth Borne, si elles restent Première ministre, pourront-ils gouverner sans majorité absolue ? Est-ce que de temps en temps, la gauche votera des textes avec la majorité ?
L'acquis que nous avons aujourd'hui, c'est le fait qu'on ait une vraie coalition. Je crois que beaucoup de nos concitoyennes et de nos concitoyens attendaient que la que la gauche soit rassemblée. Et on a ressenti sur le terrain pendant cette campagne la dynamique, la satisfaction de la population. Et donc on se réjouit de pouvoir imposer un rapport de force plus favorable à l'Assemblée nationale. Et on a incontestablement un gouvernement qui va devoir composer non seulement avec cette force de gauche et écologiste, mais avec ce qu'elle porte, et donc qui va devoir consulter. C'est le sens, et nous attendons collectivement de voir ce que va donner la consultation des chefs de parti qui a eu lieu donc mardi, mais le résultat doit être de mettre en place des conditions de travail collectif. Moi, j'ai pas vraiment d'espoir sur un revirement radical d'Emmanuel Macron, qui d'abord au lendemain de l'élection législative a cherché à approcher la droite dure LR qui l'a renvoyé. Mais bon, à la fois il y a un impératif à composer, et à la fois on voit bien qu'idéologiquement le projet porté par M. Macron, c'est d'abord un projet ancré à droite. Donc on n'a pas de doute sur le fait que le rapport de force va devoir être mobilisé au maximum pour imposer les thématiques et pour empêcher des mesures supplémentaires de recul social, de recul sur les questions écologiques ou démocratiques.
Et là, Kribi Romdane, je sais que vous êtes très préoccupé par la montée de l'extrême droite en France. Marine Le Pen a obtenu 42% des voix au second tour de l'élection présidentielle. Et pour la première fois dans l'histoire de la Ve République, il y a près de 90 députés du Rassemblement national. Comment expliquez-vous ce score? Est-ce que c'est inquiétant pour l'avenir?
À la fois c'est inquiétant et en même temps c'est pas très étonnant compte tenu de ce qu'on a entendu ces dernières années et de ce qu'on a laissé s'installer comme climat nauséabond depuis plusieurs années. Moi, je veux dire avec une grande solennité que la droite en général, et particulièrement le gouvernement de M. Macron, a joué un rôle majeur dans cette situation et porte une responsabilité très lourde. Je le dis parce que nous les avons vus avec la loi séparatisme, hein, qui a visé à stigmatiser les concitoyens de confession musulmane en particulier. Ces dernières années, on a vu les propos du ministre de l'Intérieur, qui a d'ailleurs été maintenu, Gérald Darmanin, les propos de stigmatisation, des propos caricaturaux qui ont blessé dans leur chair un grand nombre de nos concitoyens, des familles hein, complètement et pleinement intégrées dans la République française qui se sont senties touchées par cette loi séparatisme, par les propos. Et puis on les a vus courir derrière l'extrême droite ces dernières années. On les a vus participer à la course à l'échalote avec Monsieur Zemmour. On a vu aussi qu'au lendemain des premiers tours, la position du gouvernement, de ses représentants et d'En Marche n'était pas très claire dans des deuxièmes tours qui opposaient l'extrême droite à des candidats de la NUPES. Là où nous avions été complètement clairs. Alors quand l'extrême droite est face à un candidat de la droite, on ne transige pas, on fait barrage à l'extrême droite. Et moi, je fais partie de celles et ceux qui ont voté pour M. Macron, peut-être en me bouchant le nez, mais avec la responsabilité en tête de me dire « je ne veux pas de l'extrême droite et du racisme au pouvoir dans notre pays ». Donc, je le dis, vraiment, je crois que LREM et le gouvernement de M. Macron, ses représentants, portent une lourde responsabilité dans le fait que l'extrême droite a été banalisée depuis plusieurs années, puisque eux-mêmes ont parfois adopté des positions qui les ont confortées. Et je dis enfin qu'ils jouent au maximum le duel Rassemblement National LREM. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle ils ne veulent pas reconnaître l'existence de la NUPES comme principale force d'opposition, parce que ça les arrange bien d'avoir face à eux Madame Le Pen et le Rassemblement National, pour être sûr au final de gagner grâce au sursaut républicain dans de prochaines élections. Donc il faut vraiment que nos concitoyennes et nos concitoyens aient ça en tête et que nous arrivions à dépasser cette situation pour remettre en place le clivage droite-gauche tel qu'il existe en réalité dans notre société.
On a un peu parlé de l'abstention dimanche soir. Reste qu'il y a des départements où cette abstention a été extrêmement forte. Il faut que les partis politiques s'en préoccupent davantage.
Bien sûr, l'abstention, c'est aussi un message envoyé à la classe politique. Si les gens se détournent des urnes, c'est aussi parce qu'ils pensent que la classe politique n'apporte pas de réponse adaptée à leurs préoccupations du quotidien. Et moi, je ne me résous pas à considérer que c'est une fatalité. Moi, je pense qu'à l'inverse, il faut vraiment qu'on montre que les politiques publiques, elles concernent d'abord celles et ceux qui en ont le plus besoin et qui, malheureusement, se sont détournés des bureaux de vote. Et on l'a vu, moi je le constate au quotidien, quand je rencontre des habitants de mon territoire qui me disent finalement tout ça ne sert à rien, ça sert à rien d'aller voter parce que ça ne me permettra pas de trouver un logement ou de régler le problème d'inscription à l'université de mon enfant ou d'avoir une fiche de paye plus conséquente à la fin du mois, ben je leur dis non. Bien sûr que ça a un impact, précisément parce que les politiques publiques telles qu'elles sont votées à l'échelle nationale, elles ont des répercussions concrètes sur leur quotidien. Et il ne s'agit pas de résoudre des problèmes individuels, mais bien de changer structurellement la loi de manière à ce qu'elle bénéficie d'abord à celles et ceux qui en ont le plus besoin. Donc mobilisez-vous, votez. Participer à la vie locale, dans le monde associatif, dans les partis politiques, dans les mouvements, votez, choisissez, votez pour qui vous voulez, mais intéressez-vous à la chose publique et à la vie publique, parce que sinon c'est elle qui s'occupe de vous, sans vous demander votre avis.
Dernière question, et là, Kribi Romdane, quels sont les dossiers pour vous les plus urgents à régler par la nouvelle Assemblée nationale? Il y a l'inflation, il y a la crise de l'hôpital, je vois que les maternités sont sous tension aussi, et puis il y a cette crise climatique qui effectivement s'est rappelée à notre bon souvenir la semaine dernière avec la canicule.
Absolument, alors le message qui consiste à dire fin du monde, fin du mois, même combat, eh bien je le fais mien parce qu'on voit bien que la question du climat, la question écologique est très liée à la question sociale, puisque la pollution, la consommation de produits toxiques pour la santé, etc., concernent avant tout les populations les plus fragiles, alors qu'on sait bien que ce sont les plus riches qui polluent le plus et qui ont un impact écologique plus important. Donc c'est aussi des solutions rapides, concrètes et urgentes qu'il faut apporter maintenant à ces sujets-là. La question du pouvoir d'achat et de l'inflation, enfin, quand les gens sont obligés d'aller travailler loin de chez eux, de prendre la voiture et qui sont à 2 euros au litre à la pompe, ben, ça a un impact concret sur leur portefeuille. Quand ils vont à la grande surface et qu'ils n'en sortent pas sans avoir payé 150 ou 200 euros pour pouvoir nourrir leur famille, eh bien ça a un impact concret. Et la question du blocage des prix qu'on avait mis dans notre programme, on continuera à la porter, ou en tout cas à porter des solutions concrètes maintenant et à les défendre à l'Assemblée nationale et à faire en sorte d'être entendu. Alors certes, on ne pourra pas mettre en place notre projet de la NUPES, mais on pèsera de toute notre force pour que des solutions puissent être apportées à nos concitoyens les plus fragiles.
Merci Ella Kribi Romdane, je rappelle que vous êtes porte-parole de Génération, conseillère régionale d'Île-de-France et nouvelle députée suppléante de l'Essonne. Bonsoir.
Bonsoir.
C'était Pluriel, une émission hebdomadaire présentée par Loïc Barrière.